Bonjour à tous. Je pense que ça est en ligne.
Bonjour, bienvenue. Alors, on va commencer. Sandrine Culafros-Jauvert, je suis avocate spécialisée en nouvelles technologies. Je dirige la pratique au sein de PwC, Société d'avocats. Et cette webcast dédiée à la cybercriminalité est organisée en collaboration avec Alexia Chamerois, que je laisse se présenter.
Bonjour à tous, Alexia Chamerois, je suis également avocate spécialisée en droit des nouvelles technologies et je travaille avec Sandrine sur une multitude de dossiers liés au droit des nouvelles technologies, mais plus principalement à la protection des données et à la protection des systèmes d'information de l'ensemble des entreprises et de nos clients.
Le but de cette webcast ce matin, c'est de dresser un panorama des tendances cybercriminelles, des menaces cyber auxquelles font face les entreprises, notamment les ETI, qui sont particulièrement exposées du fait de leur positionnement marché, de leur taille, de leur activité, mais aussi de leur structuration, qui n'est pas forcément la même que celle des grands groupes d'entreprises et les vulnérabilités qu'on a pu constater. Nous allons avoir une première partie qui va dresser un petit peu théoriquement les bonnes pratiques, faire un rappel des obligations réglementaires et légales qui pourraient entrer dans le giron de la cyber. Et ensuite, nous adresserons trois cas pratiques qui sont des cas d'usage, pas nécessairement sur des faits tout à fait exceptionnels en matière de cybercriminalité, mais au contraire des cas d'usage finalement de cybercriminalité courante qui va nous servir finalement comme support pour pouvoir mettre en avant un certain nombre de recommandations. Et ensuite, arriver en fin de webcast à une petite checklist de la gestion de crise qui, nous l'espérons, vous permettra d'avoir les réflexes et se poser les bonnes questions en prévention. Et puis surtout, vous donner finalement quelques lignes directrices pour la remédiation. Bien évidemment, nous espérons que vous ne serez pas confrontés à ce genre de situation. On va peut-être passer à la slide suivante. Alors, les tendances cybercriminelles actuelles. Il est important, et c'est assez anecdotique, mais c'est tout de même intéressant de le soulever. Nous avons choisi d'organiser cette webcast en octobre. Ce n'est pas anodin. C'est le mois de la cybersécurité en Europe. Et c'est un mois où finalement vous avez peut-être été invité à un certain nombre de webcasts ou en tout cas avoir été destinataire de plusieurs supports pédagogiques, de sensibilisation aux risques cyber. Et vous avez certainement pu constater les statistiques de 2021. Les statistiques de 2021 sont assez fortes puisque finalement elles font un bilan de ce qui s'est passé en 2020. Et d'une certaine façon, il y a aussi également une rétrospective un petit peu plus large sur 2019, donc c'est-à-dire des années où on s'est retrouvé dans une crise sanitaire qui a engendré une augmentation des usages numériques, une transformation peut-être plus rapide et une digitalisation plus rapide des activités et donc une exposition à la menace peut-être plus forte. Dans certaines entreprises, tout ça a été plus ou moins installé, donc ça s'est passé une transition. Enfin, si vous voulez, vous aviez une transition qui était finalement plus aisée, moins complexe et qui va requérir moins de sensibilisation des usagers, des réseaux et des équipements informatiques. Et puis d'autres sociétés, d'autres entreprises qui ont dû un petit peu appréhender les usages et très vite former le salarié au risque. Donc aujourd'hui, la menace, elle est sur, vous avez certainement pu entendre, les rançongiciels. Donc vous savez, ce sont ces logiciels qui cryptent les données et qui demandent une rançon pour pouvoir permettre aux victimes de recouvrer leurs données assez rapidement. Donc, ça engendre évidemment un risque financier assez évident puisque la motivation est principalement lucrative ici. Mais ça engendre également des risques opérationnels à plusieurs niveaux, hein, que ce soit dans les fonctions support de l'entreprise, mais également dans les unités de production, puisque le déploiement du rançongiciel peut concerner plusieurs métiers au sein de l'entreprise. Des vulnérabilités sur les messageries, il faut quand même savoir que la plupart des fraudes cyber, donc c'est-à-dire des menaces cybercriminelles qui ont finalement des velléités lucratives et financières, passent par le biais d'une messagerie électronique. Donc bien souvent, le premier vecteur, c'est un mail. On le voit d'ailleurs avec les tentatives de phishing, les faux ordres de virement, ce genre de choses. Nous avons également constaté des nouveaux types d'attaques, des nouvelles formes finalement de cybercriminalité. On pense au credential stuffing, donc c'est-à-dire ce sont ces attaques qui permettent de solliciter massivement, hein, de façon répétée, beaucoup de connexions, donc des comptes des comptes en ligne, alors ça peut être des comptes d'utilisateurs ou des comptes sur des sites e-commerce pour pouvoir accéder aux comptes. Et bien entendu, si par exemple la carte la carte bancaire avait été enregistrée, passer des achats et pouvoir évidemment bénéficier de ces éléments et des informations aussi, hein, des données personnelles qui figureraient sur le compte dans le cadre d'usurpation d'identité, par exemple, en ligne. Les moyens, alors évidemment, toutes les techniques d'ingénierie sociale grâce aux réseaux sociaux, certains logiciels open source pourraient contenir des vulnérabilités. Alors, c'est moins le cas maintenant puisqu'effectivement, l'intérêt de l'open source aussi, c'est de pouvoir corriger un peu mutuellement les vulnérabilités et avoir des configurations les plus robustes possibles. Mais toutefois, on a vu qu'il pouvait y avoir de temps en temps certaines backdoors. Exploitation de droits d'accès. Alors là, on a mis un exemple d'ancien salarié, mais en réalité de tout collaborateur ayant eu un accès au réseau. Donc, c'est une question de finalement détournement, hein, ou alors mauvaise gestion, ça dépend de quel point de vue on se place, en amont ou en aval, des droits d'accès et de la gestion des privilèges. On a aussi constaté, c'est une tendance depuis un an ou deux déjà, une industrialisation et une professionnalisation de la menace cybercriminelle. Donc, c'est-à-dire que maintenant, on va avoir des organisations délinquantes qui vont rendre des services criminels. Donc, on parlait du ransomware tout à l'heure, vous avez des ransomware as a service et vous avez de la R&D finalement en matière de cybercriminalité avec des services après-vente également. Donc, vraiment une professionnalisation. Et des cibles privilégiées. Alors évidemment, pendant la période sanitaire, les données de santé étaient particulièrement exposées, mais également les chaînes d'approvisionnement, le secteur des assurances, banques, prestataires informatiques également, puisque ça permet de faciliter ce qu'on appelle des attaques en rebond, donc c'est-à-dire des attaques indirectes. On va cibler une société de services pour pouvoir en réalité ultimement cibler une société plus importante qui serait cliente. Mais la cibler directement serait plus compliquée parce qu'elle aurait une résilience plus importante, parce qu'elle serait moins exposée, en tout cas elle aurait une politique de cybersécurité peut-être plus développée, plus robuste, moins difficile à atteindre. Et une société tierce, alors pas nécessairement informatique d'ailleurs, hein, puisque par définition, elle pourrait être peut-être plus sensibilisée évidemment à ces sujets, mais en tout cas tout tiers, tout prestataire de conseil ou tout prestataire en général qui serait en lien avec cette société cible ultime en réalité, pourrait permettre d'être une forme, d'une sorte de cheval de Troie vers la cible ultime. Donc, Vraiment un panel assez large, hein, une diversité d'attaques, une diversité aussi de compétences au niveau de la délinquance cybercriminelle. On peut avoir des gens qui sont là pour développer finalement des outils techniques d'attaque, d'autres qui vont être plus spécialisés en ingénierie sociale. Et c'est finalement cette diversité, cette professionnalisation et cette internationalisation de la menace qui met nos entreprises et les acteurs économiques mondiaux face à un risque grandissant et surtout à un risque qui est pluriel et qui doit être appréhendé comme tel. Et donc, notre webcast va s'attacher à bien mettre en avant qu'à chaque fois, vous allez avoir face à une menace et un problème cyber, une réponse à la fois technique, organisationnelle et juridique. Alors évidemment, nous allons mettre l'accent sur les réponses juridiques et l'importance de celles-ci dans le dispositif global. Mais il est très important d'avoir en tête que tout cela participe à un tout et c'est ce tout qu'il faudra considérer.
Et comme le disait Sandrine, donc l'ensemble de ces menaces multiples va se retrouver dans le code pénal qu'on connaît en France et qui voit les infractions criminelles ou délictuelles se démultiplier en termes de qualification juridique. Vous allez retrouver des atteintes directement au système de traitement automatisé de données dans le code pénal. Donc, vous allez retrouver justement tout ce qui est accès et maintien frauduleux dans un système d'information, l'entrave au fonctionnement du système d'information lui-même. Donc, dès lors que vous allez être victime d'un rançongiciel ou d'une attaque par déni de service, par exemple, vous allez pouvoir qualifier cette atteinte par cette infraction pénale. Vous allez retrouver également l'introduction frauduleuse de données dans un système d'information qui peut avoir des enjeux et des incidences multiples sur le fonctionnement de l'entreprise et parfois des conséquences même dramatiques sur la vie humaine, comme on pourrait le voir dans un centre hospitalier, par exemple. Vous allez également retrouver les extractions, la détention, la reproduction illégitime de données, la mise à disposition d'équipements qui permettent justement ces atteintes au système de traitement automatisé de données, ou encore toute atteinte à un tel système par le biais des nouvelles technologies, comme l'expliquait Sandrine, les moyens techniques actuels se démultipliant et devenant toujours plus aguerris et plus en amont sur le droit et la qualification juridique française. Et à côté de ces infractions propres au système d'information, vous allez retrouver les infractions classiques du droit pénal qui vont, elles, être induites et réalisées par le biais des nouvelles technologies. Donc, c'est là qu'on va retrouver tout ce qui est escroquerie avec les faux ordres de virement, l'abus de confiance, le vol de données, le recel, les usurpations d'identité et de comptes bancaires qui se démultiplient également, voire les attaques contre les marchés financiers par usurpation également de comptes de trading. Et parallèlement, vous avez tout le pan plus administratif et réglementaire avec toute la réglementation propre à la protection des données qui s'est vue adjoindre un volet pénal. Et donc, en cas de manquement ou de violation de données à caractère personnel, non seulement vous allez avoir une infraction qualifiée pénalement, mais également administrativement parlant.
Alors, les enjeux des ETI sont assez similaires, hein, évidemment, aux enjeux des autres types de sociétés, hein, que s'il s'agisse des TPE, PME, ETI, grands groupes, CAC 40, on est finalement sur des enjeux, des catégories, des typologies qui sont essentiellement similaires. En revanche, c'est la portée finalement, hein, la proportionnalité de ces différents, de ces différentes typologies qui pourraient varier un petit peu. Notamment, je dirais, la particularité des ETI à titre liminaire, c'est que dans leur croissance, des impacts en fait réputationnels par exemple ou financiers pourraient les ralentir dans leur croissance, dans leur expansion ou éventuellement les empêcher d'être à la porte finalement du CAC 40 par exemple. Donc il y a des enjeux peut-être encore plus forts puisque ce sont des sociétés qui souvent ont une activité très importante, souvent internationale, en forte expansion. Mais pas nécessairement la structuration ou les budgets dédiés à ces sujets de cyber. Ce sont des choses qui sont en cours finalement de développement dans ce type de structure. Donc les enjeux en termes de typologie maintenant, nous avons, donc on l'a évoqué très rapidement, les enjeux réputationnels. Alors les enjeux réputationnels, ils sont à la fois en interne et en externe. Alors en externe évidemment, hein, vis-à-vis du marché, donc, vis-à-vis de leurs pairs, vis-à-vis des partenaires commerciaux vis-à-vis des autorités duquel elles répondent dans certains secteurs, vis-à-vis du grand public, de leur clientèle, vis-à-vis en interne de leurs salariés, de leurs collaborateurs internes, puisqu'encore une fois, les enjeux sont aussi d'ordre humain et de confiance. Hein, il y a toujours un enjeu de rétention des talents et que ces talents sentent que l'entreprise dans laquelle ils développent leurs compétences a conscience des nouveaux enjeux du numérique et est à même de sécuriser les données qu'ils traitent. Donc, il y a un enjeu finalement humain et assez sociétal en réalité qui ne peut pas être dénié. Vous avez des enjeux également financiers, évidemment, notamment dans les tentatives de fraude, d'extorsion, d'escroquerie. Donc, ces enjeux financiers, ils sont directement exposés par la nature de l'attaque, hein, escroquerie, extorsion, mais plus généralement, sans pour autant répondre à la tentative, hein, des enjeux de remédiation, de gestion de la crise, de mobilisation des ressources internes, de gestion des contentieux subséquents à l'attaque, de gestion des coûts liés à la restructuration d'une activité, à la reconstruction, par exemple, d'un AD, donc d'une structure informatique qui aurait été attaquée pour en purger les vulnérabilités. Les plans de remédiation peuvent être assez longs dans le temps, ce sont des investissements. Alors évidemment, ils seront priorisés et finalement, les différents chantiers seront étalés suivant une logique, encore une fois, de priorité et d'urgence. Mais pour autant, ces coûts financiers sont importants. Ils peuvent être très élevés, surtout quand on n'a pas anticipé que finalement la tâche relève plus finalement de la refonte complète que de la remédiation sur des aspects très précis. Évidemment, les pertes de CA, notamment lorsqu'on est dans des blocages finalement opérationnels, donc c'est-à-dire des attaques qui vont porter atteinte à la continuité du service donné par l'entreprise. Et puis peut-être des incidences à terme aussi sur la valeur boursière. Et là, on en revient à des enjeux réputationnels et finalement concurrentiels. Également, des enjeux administratifs. On en reparlera tout à l'heure. Il y a des obligations réglementaires de notification d'un certain nombre de failles de sécurité en fonction de leur nature et selon les autorités dont répondent l'entreprise. Encore une fois, c'est en raison de son secteur d'activité. Donc, vous pourriez avoir, par exemple, je pense à l'ANSSI, je pense à l'ARS, Santé, je pense… alors, évidemment, la CNIL. Alors, ça, ce n'est pas en fonction de la nature, mais ce sera en fonction, non pas de l'activité, mais de la nature de la violation. donc si la violation concerne des données à caractère personnel. Donc tout un enjeu finalement de gestion administrative également, avec potentiellement des amendes, hein, donc des sanctions qui pourraient sanctionner une violation, un manquement à ces obligations de notification. Une désorganisation et un arrêt de la productivité, ça c'est évidemment très lié à la continuité de l'activité, à la continuité de service. Des enjeux pénaux, on vient de le dire, parce que d'une façon générale, la cybercriminalité va exposer la société souvent à des infractions qui sont soit définies dans le code en tant que telles sur une atteinte à un système de traitement automatisé de données ou dans le cadre d'une infraction courante mais qui sera conduite par les réseaux comme l'a exprimé Alexia tout à l'heure. Donc une gestion finalement des plaintes le cas échéant, donc un enjeu aussi de contentieux parfois un peu long, pas court-termiste, avec une gestion pour la direction juridique plus moyen-long terme. Également des risques de prendre pour soi cette fois les bonnes mesures techniques de protection adéquates telles que prescrites par les règles légales et réglementaires. Ça agit également sur des enjeux de stratégie de conformité. Hein. Bien souvent, à la suite d'une attaque, on met à jour sa politique de gestion, sa stratégie. On met également à jour ses référentiels de contrôle interne. Tout ça fait partie de l'amélioration continue. Donc, vraiment des enjeux tout aussi pluriels, finalement, que l'est l'attaque elle-même et que l'est la menace elle-même. Et donc un coût qui peut être beaucoup plus important s'il n'est pas anticipé. Et finalement, on est plus dans un investissement vraiment de prévention plutôt que de réfléchir à une stratégie de ce qui est malheureusement encore le cas en France et dans le monde. En ce moment, on est plus dans une stratégie de réaction et donc d'assumer les coûts finalement de la menace cyber plutôt que d'investir dans la cybersécurité. Et c'est évidemment ce tournant, ce changement de prisme qu'il est nécessaire finalement d'opérer pour se prémunir face aux nouveaux risques numériques.
Et simplement pour compléter Sandrine ce que tu disais, les enjeux contractuels aussi sont très importants parce qu'on se sent tout de suite victime lorsqu'on est victime d'une attaque cyber. Mais parallèlement, nous, enfin vous, l'entreprise en question qui est victime de ce type d'atteinte, a des engagements, ses propres engagements à l'égard de ses clients ou de ses prestataires ou de ses partenaires et aura parfois pris des obligations de sécurité des données selon la qualification et la prestation ou votre activité à l'égard de ces personnes. Et une telle attaque vous mettrait en position de défaut par rapport à vos propres co-contractants. Et ça, c'est un enjeu aussi qui peut être fort avec des incidences assez importantes, d'où le fait qu'il est aussi nécessaire d'anticiper et de se prémunir, limiter les risques en établissant une politique de cybersécurité et de gestion contractuelle en amont et en ayant en tête ce risque de cyberattaque.
Tout à fait. Et d'ailleurs, la plupart maintenant des secteurs exposés, je pense notamment au secteur bancaire ou certains secteurs de supply chain ou d'objets connectés, énergie, également automobile, vont avoir des normes finalement de cybersécurité sectorielle à respecter qui vont trouver une traduction juridique. Donc, on voit bien que il y a un enjeu fort de négociation contractuelle, mais aussi de gestion de la relation contractuelle et de l'exécution du contrat et des obligations résultantes, puisque c'est encore une fois un sujet de gestion de la responsabilité.
C'est une bonne transition du coup pour aborder la prévention justement de ces atteintes et comment améliorer la résilience de l'entreprise en cas de pareille atteinte. Et la première chose à avoir en tête, c'est l'obligation, les obligations légales et réglementaires qu'a toute entreprise d'assurer la protection de ses données. Donc, avec le règlement européen sur la protection des données, la loi informatique et liberté qui existait déjà auparavant, chaque entreprise, qu'elle soit responsable de traitement ou sous-traitant, a l'obligation dès lors qu'elle traite des données de personnel, c'est-à-dire à peu près toutes les entreprises, ont l'obligation d'assurer une sécurité renforcée des données qu'elles traitent. Et en cas de manquement, il y a des peines, des amendes administratives assez fortes qui peuvent être également mises en œuvre par la CNIL avant même d'être victime d'une cyberattaque. Mais être victime d'une cyberattaque peut aussi attirer l'œil de la CNIL. Donc, il faut quand même avoir cette idée en tête que dès en amont, vous avez cette obligation légale et réglementaire, que vous avez le risque d'être victime d'une cyberattaque, mais vous avez aussi le risque d'être victime d'un contrôle de cette autorité administrative. Et outre les obligations de sécurité à l'égard des données à caractère personnel, selon la qualification et le régime auquel appartiendra l'entreprise, vous pouvez aussi avoir des obligations de sécurité sectorielle renforcées et complémentaires. Donc, on pense notamment aux OIV, aux OSE, aux sociétés de moyens de paiement, aux banques, aux assurances, qui vont avoir des normes sectorielles dont parlait Sandrine tout à l'heure, qui vont venir renforcer ces obligations de sécurité qui sont posées par la réglementation générale sur la protection des données. En termes de bonnes pratiques de prévention, on va s'attacher surtout au rôle de la direction juridique dans la prévention des cyberattaques, puisque le rôle de la direction juridique va être bien plus important que ce qu'on pense. On pense souvent à la sécurité et à la direction de la sécurité des systèmes d'information. Mais le rôle du directeur juridique va être extrêmement important, notamment dans la mise en place de la gouvernance juridique nécessaire pour pouvoir assurer la sécurité des réseaux et surtout assurer la gestion de crise si jamais l'entreprise est victime d'une attaque cyber. Autre élément qui va être très important, c'est la documentation de l'entreprise qui va être certes rédigée par les directions techniques, mais également par les directions juridiques et notamment on pense au DPO de l'entreprise qui vont ensemble intervenir sur la cartographie des données, sur les politiques de conservation et de stockage des données, sur les chartes d'utilisation des systèmes d'information. Et toute cette documentation va être un appui important dans la prévention de l'attaque et dans la gestion de la crise si jamais celle-ci devait quand même survenir. Vous allez avoir tout un pan également sur la conformité réglementaire en matière de données à caractère personnel qui impose elle-même une documentation assez dense mais qui permet à l'entreprise de réfléchir dès en amont à la sécurité et dès lors que vous allez protéger les données à caractère personnel que la société traite, vous allez nécessairement avoir une approche beaucoup plus globale de la sécurité de l'ensemble du patrimoine informationnel de l'entreprise. Autre moyen qui sera nécessaire de mettre en œuvre en amont en fait, de toute atteinte, c'est la mise en place du dispositif de contrôle des flux et des logs, ce qui vous permettra d'avoir une vision de l'utilisation de vos systèmes et de vos réseaux et d'identifier si jamais il y a un événement anormal qui se procure et qui arrive et de réagir dans les meilleurs délais. Il faut avoir en tête que dès lors que vous mettez en place des outils de surveillance cyber, en revanche, il faut vous assurer que ceci soit mis de manière licite en œuvre dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'il faut bien penser à l'information des salariés et à l'information du comité social et économique. puisque sinon, si votre système de contrôle n'est pas licite, vous ne pourrez pas réexploiter les éléments de preuve que vous aurez tirés de ce système, de ce dispositif, à l'encontre, par exemple, d'un salarié malveillant. Avec ce dispositif de contrôle des flux, vous allez également conserver les logs appropriés. Donc, vous allez devoir définir une stratégie et une politique de conservation des logs qui soient appropriées à votre activité et à votre système d'information. De la même manière, on recommande de rédiger dès en amont des politiques de gestion de crise, ainsi que de prévoir des séminaires de sensibilisation des salariés pour les mettre en situation. Donc, c'est très important pour les personnes qui vont être dédiées à la gestion de crise, mais c'est aussi important de sensibiliser l'ensemble du personnel à ce type d'attaque pour que les réflexes soient les bons au moment venu. Donc, Sandrine disait tout à l'heure que beaucoup d'attaques informatiques passaient par l'envoi d'un email malveillant. On sait très bien que la majorité des salariés pourraient cliquer malencontreusement sur une pièce jointe comprenant le virus qui va utiliser cette erreur humaine pour se déployer sur l'ensemble du système. Donc, informer, sensibiliser et apprendre son personnel à être réactif dans ce genre de cas, ça va être essentiel pour limiter ensuite le déploiement et l'impact de la faille de sécurité et de l'attaque informatique en tant que telle. Alors, tout à l'heure, j'insistais sur les enjeux contractuels également. Donc, vous allez penser que je suis obsédée par les contrats, mais l'autre point très important en amont, ça va être d'identifier et de choisir les bons partenaires avec lesquels vous allez contractualiser. Et notamment pour tout ce qui est prestations informatiques, il va être essentiel de mettre dans vos contrats des garanties suffisantes en termes de sécurité. Alors, vous aurez les exigences techniques, certes, mais les traduire en exigences juridiques est également très important. Donc, ça va passer par le cahier des charges dès en amont, si jamais vous faites des AO, et par la contractualisation des contrats. Et tout à l'heure, je vous disais que c'était important également d'avoir connaissance de vos propres obligations contractuelles à l'égard de vos clients ou partenaires. En amont, c'est bien d'avoir un audit de l'ensemble de vos contrats et de vos obligations de sécurité et d'action en cas d'atteinte par attaque informatique, parce que dès lors que l'attaque va avoir lieu, il va falloir que vous soyez conscient de toutes vos obligations également à mettre en œuvre dans un moment de gestion de crise qui va être un peu stressant. Et si jamais le travail n'a pas été fait en amont, ça va être d'autant plus compliqué à mettre en œuvre pendant la gestion de crise. Et finalement, le point également très important, c'est choisir la bonne assurance. Donc, on sait que les assurances fraude et les assurances cyber sont de plus en plus variées. Il va falloir être vigilant au scope, en fait, de votre assurance, puisque vous avez certaines assurances qui vont vous permettre d'assurer les atteintes aux infrastructures, d'autres qui vont vous permettre d'assurer les atteintes aux données. Certaines vont couvrir les dommages seulement directs, certaines les dommages indirects. Certaines vont permettre de couvrir le paiement de la rançon, d'autres non. Donc, c'est très important de faire un peu un audit de votre assurance cyber et d'identifier l'assurance cyber qui correspondrait au mieux à vos enjeux, à votre activité et à vos risques identifiés.
Bonne pratique de gestion de crise. Alors, on le verra à l'occasion des cas pratiques qu'on va aborder d'ici quelques minutes. D'abord, la constitution d'une cellule de crise. Alors, la cellule de crise doit réunir des personnels clés, finalement, des directions fonctionnelles de l'entreprise et de la direction de l'entreprise. C'est un organe où nous n'allons pas prendre des décisions de détail opérationnel, mais des décisions stratégiques sur la conduite de la crise. Donc, c'est une gouvernance importante à anticiper, puisque face à une menace qui se réalise, à un risque qui se réalise, une gouvernance déjà bien établie permet de prendre des décisions avec plus de fluidité et donc de gérer au mieux dans des temps toujours contraints, puisque la temporalité est importante en matière de gestion de crise informatique. Les mesures techniques et forensiques, donc ça, ce sont des mesures qui permettent finalement de mener des investigations pour comprendre le scénario de l'attaque, pour comprendre les vulnérabilités, les zones à risque, de prendre les mesures techniques d'isolement le cas échéant nécessaire afin de réduire le périmètre de l'attaque, en tout cas de réduire les effets de propagation. Et puis, de façon subséquente, c'est aussi un poste technique qui va gérer la remédiation, qui peut se faire d'une certaine façon en parallèle de la gestion de la crise. Donc souvent, vous avez deux axes. Vous avez des équipes qui travaillent sur les investigations et des équipes qui travaillent souvent sur la reconstruction ou la remédiation. La notification aux autorités et communication, le cas échéant aux personnes concernées, notamment en cas de violation de données à caractère personnel qui porterait une atteinte grave aux droits et libertés des personnes. Donc ça, ce sont des réflexes finalement réglementaires à avoir assez rapidement. Bien souvent, tout se fait dans des délais aussi assez encadrés. On parle de la CNIL pour les traitements de données à caractère personnel. La notification doit intervenir dans les 72 heures suite à la prise de connaissance de l'attaque, donc enfin de la violation. Donc, on est vraiment sur une réactivité qui doit permettre de répondre très vite à ces obligations et donc qui nécessite aussi une gouvernance et des liens, une articulation, une coordination entre, par exemple, le DPO, la conformité, le directeur juridique, donc finalement plusieurs acteurs de l'entreprise. Dépôt de plainte, on en a parlé tout à l'heure. Dépôt de plainte qui se fait donc auprès d'un service de police ou de gendarmerie ou directement auprès du parquet. Sachez qu'en France, nous avons un parquet spécialisé, donc c'est la section J3 du tribunal de justice à Paris. Donc c'est un parquet qui a l'habitude de gérer, qui a une compétence concurrente et qui a l'habitude de gérer les infractions cybercriminelles et qui coordonne leur action avec des services de police et de gendarmerie également spécialisés. Ils sont spécialisés en fonction du type de menace. Par exemple, pour les rançons logicielles, vous allez avoir un service, une brigade qui va avoir une particulière connaissance d'un type de ransomware, donc ce qui permet beaucoup de capitaliser finalement sur l'historique de connaissances et des enquêtes déjà menées. Et puis ensuite, un enjeu de communication interne et externe, donc interne encore une fois pour répondre aux enjeux au niveau du personnel de l'entreprise, mais également au niveau de l'actionnariat de l'entreprise. Et puis externe par rapport au marché, par rapport que ce soit la clientèle ou que ce soit les partenaires commerciaux. Et tout ça se fait aussi également, en coordination avec ce qui aurait été fait au niveau des notifications, hein, puisqu'on est sur des communications, bien entendu, qui doivent être toujours cohérentes. Notamment, je pense aux communications aux personnes concernées. Ça fait partie, d'une certaine façon, des communications externes également. Un enjeu de communication de crise et juridique. Voilà, les deux ensemble à avoir en tête. On peut passer à la slide suivante.
Peut-être qu'on peut juste préciser que le rôle du directeur juridique va être particulièrement important dans la notification et aux autorités administratives et dans la communication à ces personnes concernées, notamment dans la qualification juridique qui va être faite de l'incident et de la violation de données, puisqu'il peut y avoir des violations de disponibilité des données, donc les données vont simplement être inaccessibles, que ce soit en interne ou par les usagers. Tout simplement, que ce soit définitif ou temporaire. Vous pouvez également avoir une violation de confidentialité Et donc là, ça va être potentiellement plus grave puisque des tiers vont pouvoir avoir eu connaissance d'informations sensibles. Et vous avez également une violation d'intégrité des données. Donc la donnée elle-même va potentiellement avoir pu être modifiée ou réexploitée. Et le directeur juridique aura vraiment un rôle important dans l'accompagnement des équipes, que ce soit au niveau de la plainte, de la notification et des communications internes et externes, puisque c'est la qualification juridique de l'incident va avoir beaucoup de conséquences en termes de remédiation et de traitement judiciaire de l'incident. Voilà, pardon.
Et pour les mesures post-mortem, donc ce sont des mesures finalement de REX et de remédiation. Alors, demande de réparation lorsque cela est possible. En général, c'est quand l'attaque résulte finalement d'un manquement contractuel, par exemple, qui aurait facilité l'attaque. Je pense par exemple à un partenaire commercial prestataire, par exemple, qui n'aurait pas suivi les mesures d'instruction auxquelles il était tenu dans le cadre d'un contrat. Audit interne pour améliorer la résilience. Donc là, on est sur audit et contrôle interne en réalité. Donc, on va revoir les référentiels pour être sûr d'intégrer finalement les vulnérabilités qu'on a constatées et dont on n'avait pas forcément conscience au départ. Donc, on va les réintégrer pour pouvoir les monitorer et s'assurer que les remédiations qu'on a mises en place sont bien pérennes et résilientes. Revue de la politique interne de gestion de crise, puisque bon, elle aura été mise évidemment à l'épreuve. Elle aura été mise à l'épreuve et ça permettra finalement de l'améliorer dans un sens très concret et très pratique. Hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui permet d'être efficace en crise avérée. Révision des politiques de sécurité, parfois aussi des chartes informatiques, et c'est là que finalement la direction juridique a également un point très important à faire en coordination avec les équipes DSI et RSSI, et mise à jour des contrats évidemment, notamment encore une fois lorsque on cherche à couvrir des points de vulnérabilité qui sont souvent liés à de l'externalisation d'un certain nombre de services de l'entreprise. Mais ça peut être aussi un risque qu'on a constaté chez soi, indépendamment hein, de ses relations avec les tiers, mais dont on est beaucoup plus au fait et qu'on souhaite couvrir également dans le cadre de ses relations, cette fois, avec ses partenaires commerciaux. Et on va pouvoir aborder tout ça peut-être plus concrètement dans le cadre des cas d'usage. Donc, nous avons 3 cas d'usage que nous allons aborder dès maintenant. Dans les 20 minutes qui nous restent. Alors, premier cas d'usage. Une menace peut en cacher une autre. Donc, vous voyez un titre aussi prometteur qu'effrayant. Donc, notre cas d'usage, alors évidemment, la société Bynum est une société fictive, hein, donc ne la cherchez pas sur Internet, elle n'existe pas, en tout cas, elle n'a absolument aucune volonté d'exister. elle n'a été intitulée, dénommée ainsi que pour les besoins de ce cas pratique hein, illustratif. Donc, la société Bymore confie à un tiers la gestion de la paie de ses salariés. Donc, vous voyez, on est dans un cas finalement d'externalisation de la paie assez classique, hein, assez standard, rien d'exceptionnel finalement dans ce type de service. Le prestataire est victime d'une violation de sécurité qui va toucher les données de paie des salariés de l'entreprise cliente et donc on informe aussitôt ses clients, dont la société Bymore. Donc, on est en présence d'une première faille de sécurité dont l'origine est chez un tiers, mais qui a des répercussions pour l'entreprise Bymore. Quelques semaines plus tard, la société Bymore reçoit un courriel émanant supposément du prestataire, donc ce même gestionnaire de paie, l'informant que désormais le règlement des prestations de paie devront être effectué vers de nouvelles coordonnées bancaires, donc on demande un changement de RIB, Et le service comptable effectue une demande d'enregistrement du nouveau RIB auprès de la banque et donne des instructions pour un prochain virement. Donc ici, nous avons deux cas finalement très différents, mais qui se succèdent dans une temporalité finalement plus ou moins courte. La première porte sur la gestion des rapports de sous-traitance et la violation de données à caractère personnel. Donc la première question qui se pose, c'est évidemment les rapports contractuels dans le cadre de l'externalisation d'un service. Donc, j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure sur la nécessité de bien encadrer ces relations contractuelles, et c'est encore plus vrai lorsque ces relations ont pour objet de sous-traiter un traitement de données à caractère personnel ou de donner accès à certaines infrastructures de la société, en termes d'infrastructures SI, j'entends. Des règles particulières, des instructions particulières de sécurité doivent être mises en place, évidemment conformément à des référentiels. Donc, c'est-à-dire, la recommandation pratique, c'est de bien déterminer ce qu'on attend, quels sont les attendus finalement de conformité en matière de sécurité informatique. Il y a également la part des clauses d'audit et de l'actionnabilité, de l'effectivité de ces clauses pour s'assurer que il n'y aura pas de négligence quant à la mise en place et l'exécution des obligations en matière de sécurité purement technique, mais également organisationnelle. Et le second volet, c'est évidemment la notification. Alors, dans un schéma responsable de traitement à sous-traitant, la responsabilité de la notification, notamment dans le cadre, encore une fois, de données à caractère personnel, repose sur le responsable de traitement. C'est-à-dire que le sous-traitant devra l'informer le plus rapidement possible pour que le responsable de traitement puisse lui-même répondre à ses propres obligations auprès de l'autorité. Donc, une collaboration également assez étroite doit avoir lieu entre le sous-traitant et le responsable de traitement. Donc là, on est dans un schéma ainsi, mais on pourrait se poser les mêmes questions dans un cadre responsable de traitement indépendant ou dans un cadre contractuel entre deux responsables de traitement conjoints. Donc, tout ça doit s'organiser et peut déjà être anticipé dans certaines obligations et clauses contractuelles. La partie sur la gestion de la tentative de fraude. Donc, on est dans une fraude au faux virement. Alors, la variante, c'est le changement de RIB. Évidemment, la sensibilisation des équipes en amont est essentielle, notamment au sein des services financiers de l'entreprise, puisque ça va permettre finalement aux services comptables de vérifier la légitimité d'une telle demande, avoir des réflexes de vérification du domaine, du nom de domaine de l'email, avoir aussi des réflexes quand précédemment on sait qu'un de nos prestataires ou partenaires commerciaux a connu une violation de sécurité lui-même, être très à l'écoute et se dire que peut-être subséquemment il va y avoir un risque de rebond finalement, un risque de nouvelle attaque, de nouvelles tentatives de fraude, mais cette fois-ci plus directe, légitime en se faisant passer pour un tiers finalement de confiance, un partenaire de confiance. Donc vraiment des réflexes qui vont être issus des formations et des sensibilisations internes. La gestion des délégations de pouvoir et des procédures de validation, de sorte à ce qu'il y ait finalement dans l'entreprise un circuit permettant d'éviter de répondre trop hâtivement à des demandes qui ne seraient pas légitimes et pour prévenir la fraude. Également vérifier les vulnérabilités éventuelles. Il est important que le directeur juridique, en fait, tout de suite prenne attache avec la DSI et s'assure que cette tentative de fraude n'est pas en fait évocateur de failles plus graves d'accès, finalement, de tentatives d'accès plus graves au système d'information. Donc, une coopération qui doit déjà se mettre en place entre les différents services, dépôt de la plainte, évidemment, en tout cas pour la tentative, et puis information du sous-traitant, hein, puisqu'il y a certainement eu usurpation d'identité, donc se rapprocher des personnes, de vos interlocuteurs habituels chez ce sous-traitant. Donc, j'imagine le responsable du compte de la société Bymore chez le gestionnaire de paie, afin d'informer également pour que tous les acteurs puissent, de l'écosystème puissent faire face à cette menace et à cet attaquant. Alexia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce cas d'usage en termes de recommandations pratiques? Alors, d'une pierre deux coups. Alexia, est-ce que tu veux prendre la main sur celui-ci? Ah, je vois qu'Alexia a des soucis de connexion, donc je vais garder la main. Donc, le 24 décembre, donc d'une pierre deux coups, hein, alors vous allez voir, on est aussi sur finalement une pluralité de menaces. Donc, le 24 décembre, un salarié matinal connecte son ordinateur au réseau de l'entreprise et constate une demande de rançon. À défaut de paiement, les données de l'entreprise ne pourront être déchiffrées. Il contacte aussitôt le service informatique qui prend contact avec l'attaquant. Quelques jours plus tard, les fichiers clients de l'entreprise sont divulgués sur le dark web. Donc, déjà, regardons la temporalité. Hein. On est le 24 décembre. C'était important pour nous de mettre en avant ce point dans un de nos cas pratiques parce que, bien évidemment, les attaquants choisissent rarement des plages horaires confortables pour les entreprises. C'est rarement le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi entre 10h et midi et 14h et 16h. Bien souvent, c'est le soir, le week-end, les jours fériés parce qu'on sait que l'entreprise va avoir du mal à mobiliser et va avoir un sentiment d'urgence et de pression finalement économique plus importante. Dans certains secteurs, des jalons clés hein, dans la vie de l'entreprise peuvent aussi être pris en compte. Je pense notamment dans le secteur du tourisme aux périodes de congés en été ou en vacances d'hiver. Où, voilà, on sait qu'il y a beaucoup plus d'activités, donc l'entreprise va être plus prompte à prendre des décisions très rapidement pour poursuivre et ne pas risquer une interruption finalement d'activité de service. Dans d'autres secteurs, plus généralement, au moment des comptes ou des AG, on sait qu'il y a des pics d'activité cybercriminelle. Donc vraiment, voilà, la temporalité est importante parce que c'est ce qui participe à l'urgence et finalement à la pression du délinquant. Donc, information immédiate dans ce cas-là des équipes techniques et organisation de la gestion de crise, donc mobilisation de la cellule de crise. Le directeur juridique, évidemment, à sa place, et le directeur de la conformité aussi, le DPO, voilà, des personnes qui vont avoir un rôle à la fois stratégique dans le cadre de la cellule de crise, mais aussi responsable finalement de mener des actions et de déléguer aux équipes opérationnelles des actions très concrètes à faire, des mesures techniques d'identification de l'attaque et limitation des effets, donc c'est-à-dire déjà comment on peut isoler les serveurs qui ont été chiffrés pour éviter la propagation. On a déjà mis en place des actions probatoires, donc c'est-à-dire s'assurer que dans les équipes techniques, il y ait des équipes qui s'occupent du forensique, donc c'est-à-dire vraiment des investigations, de la collecte des éléments de preuve. Donc on va aller chercher les logs pour essayer de trouver on est sur de la traçabilité, on est sur de la collecte, en fait, de retracer le scénario d'attaque en réalité. Identifier donc la portée de l'incident pour pouvoir finalement identifier les obligations réglementaires. Hein. Est-ce que la violation, est-ce qu'il y a violation de traitement de données à caractère personnel, donc en disponibilité, en confidentialité. Dans le cas présent, on voit bien que le délinquant a fait d'une pierre deux coups. D'abord, il a tenté une demande de rançon et finalement, qu'elle ait été payée ou pas. Alors évidemment, on recommande toujours, hein, les services de police recommandent toujours de ne pas régler la rançon. Hein. D'abord, vous voyez bien que ça ne prémunit pas contre, enfin, nécessairement contre d'autres attaques. Mais ça suppose évidemment d'avoir mis en place un certain nombre de sauvegardes pour assurer la continuité de l'entreprise. Donc, très important, encore une fois, l'anticipation et la prévention. Là, en l'occurrence, il y avait une perte de disponibilité qui est le préliminaire, en fait, à une violation de confidentialité. Puisqu'après, on se rend compte que les fichiers clients de l'entreprise ont été mis à disposition sur le dark web ou revendus sur le dark web. L'entreprise s'en est rendue compte parce qu'elle aura mis, et grâce au fait qu'elle aura mis en place une veille. Parce que bien souvent, quand on est en prévention et encore plus en remédiation et face à une crise, il sera important de réfléchir à la veille sur le dark web pour monitorer finalement les activités criminelles et puis parfois prendre connaissance de ce qu'on n'aura pas pu détecter nous-mêmes dans le cadre de notre système d'information. Donc là, en l'occurrence, pour répondre au niveau des obligations réglementaires de notification auprès de la CNIL, on va avoir une notification en deux temps. Alors, on va avoir d'abord une notification qui va porter sur la disponibilité, hein, et puis, bien entendu, elle peut déjà elle-même être partielle parce qu'on n'a pas forcément tous les éléments pour pouvoir répondre finalement à l'intégralité des champs de notification réglementaire. Et puis ensuite, on va avoir en second temps une notification puisqu'on en saura plus et on saura qu'en réalité, il y a une violation de confidentialité puisque les données auront été divulguées à des destinataires non autorisés. Donc là, on va aussi se poser la question de l'incidence sur les personnes concernées, au-delà des notifications à l'autorité, se demander est-ce qu'il est nécessaire de communiquer aux personnes concernées. Donc dans le cadre de la violation de confidentialité que nous adressons dans ce cas d'usage, nous sommes vraisemblablement dans un cas où les personnes concernées devront faire l'objet d'une communication. Où on va bien mettre en avant les types de données qui ont été exposées et puis peut-être aussi leur donner des conseils afin de leur permettre de limiter pour eux-mêmes les impacts de cet événement. Donc, par exemple, si leur mot de passe, enfin leur des identifiants auraient été divulgués, bah, de les changer. Alors, je précise, par ailleurs, j'en profite pour dire que les mots de passe ne doivent pas être conservés en clair, mais si jamais il y avait ce genre d'incident, en tout cas, la recommandation première serait celle-ci, hein, de donner des informations et des éléments pour les personnes concernées afin qu'elles puissent limiter les impacts à titre personnel. Un dépôt de plainte et une communication de crise. Alors, la communication de crise est assez importante, hein, d'autant plus ici, on le voit bien, puisque si les fichiers se retrouvent sur le dark web, il peut y avoir une résonance médiatique de l'événement. Et maîtriser la communication est toujours préférable à la subir. Donc, être acteur et en maîtrise de sa communication est très important. Et évidemment, le directeur juridique a aussi un rôle à jouer en coordination et collaboration avec le directeur de la communication ou le prestataire spécialisé en gestion de crise et en communication de crise. Alexia, tu nous as retrouvés.
Oui, désolée.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce cas d'usage avant qu'on passe au troisième?
Peut-être une précision qui n'est pas propre au cas d'usage, mais si jamais il s'agit d'une entreprise qui fait partie d'un groupe d'entreprises et qui mettrait par exemple à disposition un système d'information commun à différentes entreprises qui seraient affectées, donc qui affecterait l'ensemble des activités de ces différentes entreprises, qui seraient elles-mêmes responsables de traitement. Il est important que chacune de ces sociétés procède aux notifications de la CNIL notamment et aux communications aux personnes concernées. Et donc, si vous le faites en deux temps, il faudra que chacune de ces entreprises fasse la notification en son nom propre pour les données et pour l'impact que cela aura sur les données dont la société est responsable de traitement. Et peut-être, je ne sais pas Sandrine si tu l'as dit, je vais peut-être manquer ça. Ce qu'on voulait préciser sur le dépôt de plainte, c'est vraiment l'importance que va avoir la présentation des faits dans le cadre du dépôt de plainte. Et c'est pour ça que souvent, la direction juridique doit être accompagnée ou très impliquée en fait dans ce dépôt de plainte, puisqu'il va falloir dérouler les faits, présenter au service de police ou au procureur les faits en restant factuel, sans prendre position et sans préjuger des qualifications que vous auriez en tête quant à l'incident de sécurité qui s'est produit. Et surtout, ne pas mettre en exergue de potentiels manquements de la société elle-même. Voilà pour mes petits zooms complémentaires.
Dernier cas d'usage pour finaliser finalement ces cas pratiques. Donc, l'appât du gain, encore un titre accrocheur, vous remarquerez notre créativité. Un salarié se connecte depuis son adresse IP personnelle au réseau de l'entreprise et accède par le biais d'identifiants et mots de passe de son collègue administrateur réseau au serveur hébergeant les données commerciales sensibles de l'entreprise. Il en effectue une extraction dans un but évidemment lucratif. Quelques jours après ces événements, l'entreprise identifie la présence d'informations la concernant sur le dark web. Donc là, on est encore sur la question des bonnes pratiques à mettre en place en matière de gestion des systèmes d'information, des chartes informatiques et des sensibilisations finalement et la mise à disposition des règles auprès des salariés, des bons usages. Là, on voit bien qu'il y a un sujet de gestion d'accès et de privilèges, de comptes à privilèges, donc un administrateur réseau qui aurait été négligent dans la confidentialité de ses identifiants et mots de passe, ce qui aurait permis à un de ses collègues mal intentionnés de l'utiliser à des fins lucratives et déloyales. Donc, vraiment, on voit bien qu'il y a un intérêt vraiment très concret hein, à mettre à jour ces chartes informatiques. J'attire votre attention parce que la plupart des entreprises ont des chartes informatiques. Mais souvent, ce sont des chartes informatiques assez anciennes, qui n'ont pas été mises à jour, qui ne sont plus tellement conformes en fait, aux usages de l'entreprise. Je pense notamment à la digitalisation très importante, à l'utilisation d'équipements personnels ou non, et d'applications aussi, parce qu'on n'est pas forcément que dans le device, on peut être aussi dans l'applicatif, donc l'utilisation d'applications du marché qui n'aurait pas été répertoriées et cataloguées par l'entreprise et qui ne serait pas dans son urbanisation applicative validée par la direction des systèmes d'information. Donc, tous ces éléments, toutes ces chartes sont vraiment très importantes à mettre à jour. Et on dit souvent qu'une charte informatique, pour qu'elle soit effective, efficace, il faut refaire une passe à peu près tous les 4-5 ans, parce que c'est ce qui correspond un petit peu aux évolutions des usages hein, et au dynamisme en fait, d'une entreprise quant aux usages numériques. C'est d'autant plus vrai en ce moment où les usages du télétravail ont évidemment été croissants en raison de la crise sanitaire. Et parce que la crise sanitaire permet aussi d'éveiller les consciences, il faut bien tenir compte des gestes barrières numériques qui existent également et à l'hygiène informatique qui est tout aussi importante pour éviter les virus hein, de la même manière que pour le domaine de la santé. Veille également, on en revient à cette histoire de veille réputationnelle, mais aussi une veille sur le dark web pour s'assurer, monitorer finalement les informations qui circulent sur l'entreprise afin d'être plus à même d'apprécier l'étendue d'une menace. Des actions probatoires, donc de collecte de preuves. Donc là, on va aller chercher dans les logs, on va leur vérifier qui s'est connecté, comment, pourquoi, qui a eu accès à quoi. Donc vraiment des obligations de journalisation et de rétention, hein, de conservation des données. Alors évidemment, dans des délais appropriés hein, et en cohérence avec les recommandations soit de la CNIL, soit des autres autorités, évidemment conformément aux obligations légales et réglementaires. Éventuellement, dans certains cas, il y a des mécanismes probatoires civils hein, qui sont tout à fait indépendants des investigations policières dans le cadre des dépôts de plaintes. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle recours aux mesures in futurum, donc des mesures probatoires et conservatoires. Donc, c'est l'article 145 du Code de procédure civile qui permet devant un juge d'obtenir parfois des investigations, la recherche des éléments pour pouvoir rechercher des preuves. Donc, un outil qui pourrait être intéressant dans le cadre de relations civiles, finalement, puisque bien souvent, les investigations, sinon dans le domaine du pénal, seront prises en charge par les services de police et d'enquête. Et puis, des sanctions disciplinaires, évidemment, sous la supervision de la direction des ressources humaines, puisque dans notre cas, le comportement malveillant a pour origine un salarié. Donc, des mesures assez rapides à prendre. Voilà. Alexia, est-ce que tu veux compléter assez rapidement, parce que je vois que nous dépassons légèrement notre temps imparti.
Non, c'est bon, c'était très complet, Sandrine, merci.
Alors là, on va maintenant attaquer la checklist juridique de la gestion de crise. Alexia, je te laisse conclure sur cette partie.
Oui, alors c'est un peu un récapitulatif de tout ce qu'on s'est dit ce matin pour vous aider dans la mise en œuvre et la rédaction potentiellement de votre procédure de gestion de crise qu'on vous conseillait de mettre en œuvre en amont de tout incident de sécurité. Donc, en premier lieu, informer l'ensemble de votre personnel qu'il faut prendre attache en interne avec le DPO et les services techniques dès lors que vous identifiez une atteinte malveillante ou un problème sur un système d'information quelconque qui vous laisse penser qu'il y a un souci dans la gestion de celui-ci. La direction juridique va également prendre le relais ensuite afin d'identifier les obligations légales et réglementaires qui incombent à la société en termes notamment de notification aux autorités de contrôle. Donc, on a beaucoup parlé de la CNIL, mais comme le disait Sandrine, il y a aussi la Banque de France ou la CPR pour tout ce qui va être lié aux moyens de paiement, l'ARS pour tout ce qui va être lié à des données de santé, l'ANSSI, pour les fournisseurs de services de communication électronique, OSE, OIV. Identifiez vos propres obligations légales, si jamais vous êtes sous-traitant d'ailleurs, c'est réglementaire également, et vos obligations contractuelles à l'égard de vos partenaires commerciaux. Et procéder, si jamais il y a un risque élevé pour les personnes concernées, aux communications à ces personnes concernées elles-mêmes. Vérifiez immédiatement votre police d'assurance et contactez votre assurance en lui déclarant au fur et à mesure de l'identification des conséquences de l'attaque informatique parce que les incidences et les risques, enfin les dommages vont évoluer jusqu'à temps que l'incident soit résolu. veiller à la traçabilité des mesures. Donc, c'est là que la direction juridique est également très importante dans l'accompagnement des équipes forensiques et des équipes techniques et également du personnel pour garantir que le fichier de preuve que vous allez collecter pourra être réexploité devant les tribunaux et que l'ensemble des preuves apportées soit valable et puisse venir justifier de vos actions. Déterminer la nature et les modalités des mesures probatoires et donc conservatoires également. Documenter l'incident ainsi que les actions et les décisions qui sont prises tout au long de la gestion de crise. Vous avez également, en tant que DPO et directeur juridique, l'obligation de maintenir un registre des violations de données dès lors qu'il y a eu une atteinte à une donnée à caractère personnel. Donc, c'est très important de le maintenir également à jour parce que en cas de contrôle, la CNIL viendra immédiatement contrôler ce registre au même titre que votre registre de vos activités de traitement. Déposer une plainte de la même manière, il faut aller très vite dans le dépôt de plainte, ça va vous permettre d'assurer la conservation des preuves et de vous accompagner également dans la gestion de votre relation avec l'attaquant. Par exemple, dans le cadre des demandes de rançon, vous allez potentiellement avoir des contacts avec l'attaquant. Il est difficile parfois de réagir, de savoir comment réagir avec lui-même. Donc, le service de police, plus vite il sera informé, plus vite il pourra vous accompagner dans la gestion de cette négociation ou de cette gestion de crise et pourra conserver l'ensemble des preuves nécessaires parce qu'on sait que le réflexe automatique de l'entreprise, ça va être de relancer l'activité. Parfois au prix de la conservation de l'isolement des données. Et ce qui est très important, c'est de garantir que la reprise de l'activité va se faire sur des bases saines et que l'attaquant n'est potentiellement pas encore dans vos systèmes et pourrait reproduire d'autres attaques subséquentes suite à celle-ci. Finalement, assurer la revue juridique des communications internes et externes, puisqu'il va être assez important de contrôler la communication et le niveau d'information que vous allez donner parce que ces communications, elles vont se propager, devenir publiques. Il faut faire attention à ne pas communiquer trop d'informations qui pourraient se retourner contre vous et laisser la possibilité à d'autres attaquants de réexploiter votre vulnérabilité du moment et venir vous réattaquer grâce aux informations qu'ils auraient collectées par ce biais-là. Donc, c'est très important de contrôler toutes les communications, qu'elles soient internes ou externes. Et finalement, encadrer contractuellement l'intervention des différents prestataires qui vont venir accompagner la société puisque on n'est pas à l'abri non plus de difficultés dans le cadre de ces relations avec vos prestataires. Donc, c'est bien aussi en amont d'anticiper qui va pouvoir vous accompagner, sur quel aspect, si jamais vous deviez faire face à une crise cyber. Toute entreprise n'étant pas nécessairement pourvue des ressources nécessaires pour faire face à toute attaque cyber qui peuvent être hyper variées, comme on l'a pu le voir au tout début. Voilà, je pense que on en a fini. Le plus important ensuite, ce sera effectivement de réaliser un retour d'expérience afin d'améliorer l'ensemble des procédures qui auront été rédigées et mises en œuvre tout au long de la gestion de crise, afin de renforcer de manière continue la résilience de l'entreprise. Parce que comme le disait Sandrine au tout début, maintenant on sait que toute entreprise peut être victime d'une attaque cyber, victime ou en tout cas victime d'une tentative, puisque du fait de l'amélioration de cette résilience, vous allez être de plus en plus apte à limiter les attaques positives et qu'il y aurait des incidences sur les systèmes et les données de l'entreprise. Voilà.
Merci Alexia, merci à tous. Navré du dépassement d'horaire. Nous avons légèrement débordé d'un peu plus d'une dizaine de minutes. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de notre webcast. Nous allons organiser un certain nombre d'échanges à la suite de cette webcast. Si vous souhaitez vous y inscrire, si vous souhaitez explorer plus davantage la matière et puis les différents axes qui sont possibles de traiter au niveau de la direction juridique. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Nous ferons en sorte de vous proposer une date très rapidement. Nous avons également un petit questionnaire de satisfaction que nous vous remercions de renseigner. C'est toujours très utile pour nous. Ça nous permet d'adapter nos contenus pour les prochaines webcasts et puis aussi de traiter les sujets qui sont vos enjeux et qui sont d'intérêt pour vous. Donc, n'hésitez pas à nous suggérer également des thématiques que vous voudriez voir abordées par notre équipe, par exemple, donc en matière de droit du numérique et de protection des données ou par d'autres équipes plus généralement. Merci encore pour votre participation. Merci Alexia pour la co-animation de ce podcast. Et nous vous disons à très bientôt.
À bientôt.